Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir à vous tous, fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, nous parlons du découpage électoral jugé défavorable aux Africains américains qui divise la Cour suprême. Eric Manirakiza est au micro. Lionel Lunanilagahima assure la mise en ordre. Les juges de la Cour suprême des États-Unis ont exposé mardi leurs différends sur la question raciale lors de l'examen d'une carte des circonscriptions dans l'État de l'Alabama, accusée de diminuer l'influence des électeurs noirs qui penchent vers les démocrates. Quels sont les enjeux du découpage électoral? Le débat sur le Voting Rights Act, la grande loi sur les droits civiques de 1965, suscite beaucoup d'attention ici aux États-Unis. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Marlene Sefok, professeur à Howard University, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Bonsoir.
Bonsoir.
René Lec, analyste politique, est également avec nous. Bonsoir, René.
Bonsoir, Eric.
Alors, la Cour suprême doit rendre sa décision avant le 30 juin. Le dossier porte sur une carte redessinée en 2021 par les élus républicains de l'Alabama pour attribuer les sièges à la Chambre des représentants. La nouvelle carte est donc soupçonnée de favoriser le parti républicain. Marlene Sefok, c'est quoi l'enjeu du découpage électoral?
Alors, l'enjeu du découpage électoral, c'est surtout de ne pas diluer les voix des Africains américains. On remarque que dans beaucoup de circonscriptions aux États-Unis, pas seulement en Alabama, mais dans beaucoup d'États, le découpage électoral défavorise les minorités, en particulier les Africains américains.
René Lec, pour nos auditeurs africains qui nous suivent, diluer le vote des Noirs, ça signifie quoi en réalité?
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une conséquence directe. Mais le découpage électoral, l'idée, c'est qu'au fond, après chaque recensement, donc tous les 10 ans, il y a un redécoupage au sens où il est nécessaire de voir par rapport aux populations qui ont augmenté. Une population peut augmenter dans un centre urbain plus que dans un centre rural. Donc, du coup, on va favoriser un peu plus, la représentation urbaine sera un peu plus importante. Donc, l'idée, d'un point de vue théorique, elle se comprend par rapport au recensement démographique. Mais dans la réalité, ce qui se passe, et c'est ce que Marilyn disait tout de suite, c'est que dans la réalité, ce rééquilibrage objectif est utilisé à des fins manipulatrices politiques. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire des États-Unis. C'est un peu ce qu'on appelle le gerrymandering. Et c'est aussi vieux que l'Amérique, ça date à peu près de 200 ans, 1812 que cela a commencé.
Herman Cohen, y a-t-il un gain politique, que ce soit du côté démocrate ou républicain, selon où la balance penche?
Oui, prenons un exemple. Par exemple, si un État a 10 députés et les Africains-Américains ont 30% de la population de cet État, donc les Africains-Américains doivent avoir 3 députés dans leur circonscription. Mais ce que certains gouvernements font, c'est qu'ils mettent tous les Africains américains dans une seule circonscription. Donc, au lieu d'avoir 3 députés, ils ont un seul. Et c'est surtout les républicains qui font ça dans certains États. Et ça, c'est contre la Constitution, qui demande que tout le monde, malgré leur race, religion, etc., ont le même pouvoir électoral.
Eric, pour aller dans le même sens que Kerman, En fait, dans le cas spécifique de l'Alabama, les Noirs représentent 25% de la population de l'État.
Et 27%.
Le système, 27%. Et avec le système actuel, ils ne représentent que 14% de la délégation parlementaire.
Marlene, en quoi ce découpage peut affecter les électeurs?
Alors, cela affecte les électeurs de façon évidente, parce que si vous n'avez, par exemple, qu'un représentant au lieu de trois, eh bien, vous avez moins de voix, vous avez moins de pouvoir, vous comptez moins. Et vous, quand vous vous présentez, quand l'unique représentant se représente, il n'a pas ses collègues avec lui pour renforcer sa voix. Donc cela affecte au niveau, ce qui est déboursé au niveau de la vie réelle des électeurs. Parce que quand il s'agit, par exemple, de voter un budget pour des causes sociales ou autres, eh bien ce budget est moindre. Et aussi, je voulais ajouter qu'au résultat de tout cela, de ce redécoupage électoral, on a des cartes électorales qui sont mais vraiment impossibles, où on va chercher très loin, là où il y a les Noirs, et les Noirs sont éparpillés pour justement en faire qu'un seul électorat, et donc ça, c'est vraiment au détriment des Noirs, comme l'expliquait Cohen un peu plus tôt. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir plusieurs représentants, on se retrouve avec simplement un seul représentant et avec une carte électorale vraiment tout à fait impossible, puisqu'on est allé chercher les Noirs bien loin. Donc parfois, le découpage électoral est tel que vous avez un électorat dans une partie géographique et puis le reste de l'électorat se trouve par exemple à l'opposé de la carte. Mais cela fait un seul électorat, donc ils n'ont qu'un seul représentant.
Hermann Cohen, vous avez dit tout à l'heure que c'est surtout les Républicains qui font ça. Vous êtes aussi du parti Républicain. Et pourquoi ils font ça?
Oui, ils font ça parce qu'ils ont de difficultés à avoir une majorité dans la Chambre des représentants. Par exemple, maintenant, je crois que les démocrates ont une faible majorité dans la Chambre des représentants, et les républicains cherchent par cette méthode-là de gagner leur majorité dans la Chambre des représentants. C'est une question de pouvoir politique. Donc, quand ils ont leur majorité dans la Chambre des représentants, ils peuvent passer des projets de loi, par exemple, pour les impôts. Les républicains favorisent les citoyens qui ont un revenu, donc ils peuvent réduire leurs impôts. Avoir majorité dans la Chambre, c'est très important pour la politique, pour tous les sujets de politique américains.
Autrement dit, on peut contrôler l'agenda politique ou le projet politique du président qui occupe la Maison-Blanche.
Exactement, exactement.
Selon le découpage retenu, les électeurs noirs qui représentent 27% de la population, sont majoritaires dans une seule des sept circonscriptions. La nouvelle carte passe au milieu de cette région majoritairement noire, la Black Belt, comme on dit, et la coupe en deux. Des citoyens et des associations estiment que l'Alabama aurait dû créer une seconde circonscription à majorité noire, Nelek.
Oui, effectivement, la NAACP et le groupe d'électeurs noirs d'Alabama, mais également aussi un groupe de pasteurs, ces trois entités se sont retrouvées pour porter plainte contre la décision de l'État par rapport à ce découpage électoral. S'ils obtiennent gain de cause, effectivement, l'Alabama pourrait se retrouver avec deux délégations parlementaires qui éliraient un représentant noir. Mais s'ils perdent et que c'est l'État qui gagne, eh bien, ils ne se retrouveront qu'avec un seul. Donc, en clair, ils auront perdu la moitié de leur délégation parlementaire. Donc, c'est ça l'enjeu de cette procédure à la Cour suprême. Donc, si la Cour suprême décide dans un sens ou dans l'autre, ça peut aller simplement du simple double en termes de représentation dans l'Alabama. Bien entendu, il faut rajouter ceci Eric, c'est qu'on n'est pas que dans le cas d'Obama. Ça, c'est le cas qui est devant la Cour suprême, mais il y a cette situation, comme le disaient tout à l'heure les autres invités, dans partout aux États-Unis. Et au moment où on se parle, il y a déjà le cas de plusieurs autres États, dont le Maryland, où il y a une plainte qui a été déposée.
Pour faire invalider cette nouvelle carte, des citoyens et des associations ont saisi la justice en accusant les législateurs d'avoir violé le Voting Rights Act, qui interdit de diluer le vote des Africains américains. Marlene Sefocle, voudriez-vous nous parler de l'historique de cette loi sur les droits civiques de 1965?
Alors là, parler de l'historique, ce serait très long, mais pour faire court, je dirais que le Voting Rights Act est arrivé après maintes luttes de la part des Noirs américains. Ce sont des luttes qui ont commencé déjà, on peut même dire, après la reconstruction. Comme vous savez, aux États-Unis, vous aviez eu la reconstruction qui était une manière de refonder la nation et qui a commencé déjà, qui est une période d'ailleurs très courte et qui a donné le droit de vote aux hommes noirs américains. C'est la période donc d'après l'abolition de l'esclavage. Et il s'est avéré que durant cette reconstruction, les hommes noirs américains, tout de suite, les Africains américains, hommes, ils ont tout de suite accompli leurs devoirs et se sont présentés non seulement comme électeurs, mais aussi ils ont élu des Noirs américains. Et vous avez toute une série de premiers Noirs américains, hommes, qui ont été élus dans des circonscriptions comme maire, comme représentant à la Chambre des députés. Et après, c'est par réaction à cela, à la reconstruction, qu'il y a eu ces fameuses lois Jim Crow. Et ces fameuses lois Jim Crow ont essayé justement d'éliminer cela, d'éliminer la reconstruction. Donc ils ont essayé par tous les moyens, surtout dans le Sud, d'éliminer le vote des Noirs. En faisant quoi? En imposant ce qu'on appelait les poll tax, aussi en faisant une vérification électorale qui était vraiment impossible, c'est-à-dire en demandant à chaque électeur noir s'il pouvait compter, par exemple, le nombre de graines de riz dans un bocal, par exemple, des choses vraiment tout à fait absurdes, ineptes et tout à fait qui étaient au détriment des Noirs, parce qu'il n'y avait pas vraiment de réponse à cela. Et donc, après, il y a eu cette lutte vraiment très, très âpre pour justement pour renverser la chose, pour éliminer les lois Jim Crow. Et donc, c'est là justement tout le sens du Voting Rights Act qui veut que tout citoyen américain, quelle que soit sa race, puisse voter. Donc, il y a, c'est tout un chemin, si vous voulez, que cette Voting Rights Act, que cette loi pour le vote.
Herman Cohen, peut-on parler d'un retour en arrière au regard de ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, je crois que c'est un retour en arrière parce que maintenant, surtout dans les États où le pouvoir est en main des républicains, je crois qu'ils vont faire des choses pour que ce soit plus difficile pour les Africains-Américains de voter. Ils vont passer beaucoup de lois. Par exemple, on ne peut pas voter dimanche. Beaucoup d'Africains-Américains vont à l'église le dimanche matin. Et ils ont l'habitude d'aller, quand c'est un jour des élections, ils ont l'habitude d'aller après l'église, d'aller voter. Donc, ils vont éliminer les votes le dimanche. Ils vont éliminer le vote par courrier. Donc, tous pour faire difficile pour pour les Africains-Américains. Pour les Blancs, voter par courrier et tout ça, ils peuvent aller au bureau de vote plus facile. Ils ont des voitures, par exemple. Beaucoup de pauvres Africains-Américains, ils n'ont pas de voiture. Comment vont-ils aller au bureau de vote? Donc, dans plusieurs États républicains, ils commencent à faire des changements dans les procédures électorales contre les Africains-Américains.
Oui, je voulais ajouter aussi que le découpage électoral est tel que vous avez des personnes qui doivent se rendre à 200 kilomètres, 200 miles du moins, de leur lieu, de lieu où ils habitent pour pouvoir voter. Donc ça impacte aussi la façon dont les citoyens africains-américains, citoyens américains, donc peuvent voter. Parce que si votre bureau de vote se trouve à 200 miles et que vous avez de 80, 90 ans et que vous n'avez pas de moyens de locomotion, donc ça devient très difficile pour vous de voter.
En Alabama, comme dans plusieurs États du Sud, les Africains-Américains votent majoritairement démocrates et les électeurs blancs et républicains. René Lecq, les querelles électorales, nous les voyons souvent en Afrique et créent surtout des instabilités d'ordre politique et sécuritaire. Pour ceux qui nous suivent sur le continent africain, entendre ce débat ici aux États-Unis, on dirait que c'est une farce.
Oui, je peux comprendre ça à première lecture, mais encore une fois, le gerrymandering, le processus de redécoupage électoral, il existe depuis 200 ans, hein, depuis 1812. Donc, c'est une vieille pratique. Et je crois que ce qui est important ici, c'est que même si d'un point de vue politique, elle interpelle, parce que de toute évidence, derrière au résultat, encore une fois, c'est de la manipulation politique. Mais en dernier ressort, c'est réglé par les tribunaux. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne connais pas de situation où il y a eu une remise en cause populaire ou violente de rue, remettant en cause les décisions judiciaires sur ces questions-là. Tout à l'heure, je vous disais que le Maryland, mais également l'Ohio, la Caroline du Nord, le Kansas, l'État de New York, tous ces États-là, aujourd'hui, les tribunaux ont pris des décisions contre leurs décisions de découpage électoral. Et bon, et jusqu'à présent, le système, en tout cas de ce point de vue-là, il marche. Maintenant, on peut se poser des questions sur est-ce que la crédibilité de ces institutions-là est maintenu, est-ce que ça peut être un facteur de déstabilisation, ça c'est encore autre chose.
Herman Cohen, le risque du 6 janvier qu'on a vu, il n'est pas totalement écarté.
Non, pas du tout. D'ailleurs, je dois dire que ce que nous discutons maintenant, c'est pour l'élection de 2024. Ce n'est pas pour l'élection cette année. Mais il y a un autre sujet qui est important, c'est-à-dire la question d'avortement. La Cour suprême a décidé que le gouvernement central n'a pas le droit de dire que l'avortement est disponible pour tout le monde, parce qu'ils ont dit que cette décision, c'est pour chaque État. Donc, maintenant, les républicains, en général, disent il faut interdire l'avortement. Il faut interdire l'avortement. Et beaucoup de femmes, surtout des femmes qui sont dans les banlieues, à cause de ça, cette année, ils vont voter démocrate. À cause de cette histoire d'avortement, parce qu'ils disent, c'est notre choix. Nous, les femmes, doivent décider oui ou non si elles veulent un avortement. Ce n'est pas le gouvernement qui doit décider. Donc, à cause de ça, je crois que cette année, les démocrates vont gagner peut-être une nouvelle majorité dans la Chambre des représentants.
L'examen du dossier sur le fond a eu lieu mardi et duré près de 2 heures dans une cour suprême tout juste rouverte au public et a donné lieu à de vifs échanges. Au-delà du débat sur sa carte, l'Alabama a plaidé par la voix de son avocat que la Constitution des États-Unis interdisait de prendre en compte des critères ethniques lors des découpages électoraux. Le juge conservateur Samuel Alito a semblé soutenir l'idée en insistant à plusieurs reprises sur l'importance d'avoir des cartes neutres sur le plan racial. La juge africaine-américaine Ketanji Brown Jackson, qui siège depuis lundi seulement à la Cour suprême, a vivement contesté cette lecture. Pour elle, le principe d'égalité entre tous les Américains n'est pas un concept auquel la question raciale est étrangère et a été adopté après l'affranchissement des anciens esclaves pour assurer que des gens victimes de discrimination dans le passé soient traités comme des égaux. René Lec, votre commentaire?
Oui, écoutez, c'est mieux que les institutions dites démocratiques aux États-Unis. Regardez le Sénat. Le Sénat aujourd'hui est divisé en 50-50, hein. 50 démocrates, 50 républicains. Les 50 démocrates ont un corps électoral de 70% de la population américaine. Aujourd'hui, les républicains contrôlent la moitié du Sénat en ne représentant, d'un point de vue électoral, que 30% de la population américaine. Donc ça, c'est le problème de la démocratique des institutions en tant que telle qui est posée aujourd'hui. La question du vote populaire et du collège électoral se pose maintenant tous les 4 ans. Les républicains, même que ce soit Donald Trump et George Bush le disait lui-même, il disait qu'il serait le dernier républicain élu au vote, qui gagnerait un vote populaire. Depuis plusieurs décennies, aucun républicain ne peut avoir remporté le vote populaire ici aux États-Unis. Mais le collège électoral permet, au fond, quelque part, de manipuler la volonté du public, la volonté de l'opinion nationale. Donc ça, ce sont des questions très difficiles, mais ce type de changement-là, comme vous pouvez l'imaginer, Eric, ça prendra énormément de temps parce qu'il faut toucher à la Constitution, il faut toucher à des éléments qui sont à la limite caractéristiques structurelles des institutions américaines. Donc ça va prendre du temps.
Herman Cohen, votre commentaire sur l'argumentaire des deux juges?
Écoutez, pour l'élection qui arrive le mois prochain, en novembre, les républicains au niveau des États, les républicains ont pas mal de candidats qui sont des racistes. Et s'ils sont élus, ils vont tout, c'est-à-dire comme gouverneur ou comme chef des élections, ils vont tout faire pour réduire les votes des Afro-Américains. Donc, c'est une situation très grave pour l'élection qui arrive dans quelques semaines.
Marlene Sefocle.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très grave pour ce qui va arriver dans quelques semaines. Mais aussi, c'est une situation qui ne tient pas la route parce que la démographie des États-Unis change. Il y a de plus en plus une population de Latinos qui est grandissante. Et donc, le découpage électoral, c'est un découpage électoral qui est vraiment très suranné. Le fait même que ce découpage soit suranné ne corresponde pas du tout à la population à la population des États-Unis et aux souhaits de la population, et on l'a vu d'ailleurs dans le cas de l'avortement. On est dans une situation qui fragilise la démocratie, puisque les représentants ne représentent pas la volonté du peuple. Les représentants, quand ils sont, par exemple, 50% républicains et 50% démocrates au Sénat, cela ne représente pas du tout les intentions électorales des Américains. Il y a 50% de républicains au Sénat ne représentent pas les 30% de républicains qui existent, qui votent. Donc, il y a surreprésentation au niveau des républicains.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci à Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à René Leck, analyste politique.
Je vous en prie, au revoir, Eric.
Merci également à Madame Marilyn Sefocle, professeure à Howard University. Merci.
Je vous en prie, merci.
Eric Manilakis a été avec vous au micro. Lionel Lunanila Gaïma a assuré la mise en onde. Merci également à tous nos auditeurs qui ont suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end à vous tous. À la prochaine.